Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Les aires protégées de la RDC, surtout celles qui sont situées à l'est et dans la partie orientale du pays, constituent depuis des années une plaque tournante du trafic illégal des ressources naturelles. Cette exploitation illicite des minerais se fait à ciel ouvert au sein du parc national de la Maïko, dans le parc national des Kahuzi-Biega, en passant par ceux de Garamba et Virunga, ainsi que dans la réserve de faune à Okapi, à Nitouri. Selon une enquête journalistique appuyée par Pulitzer Center. Que faut-il faire pour mettre fin, comment stopper l'exploitation illicite des minerais dans les aires protégées de la République démocratique du Congo? Professeur Seguiobé, expert en droit de l'environnement, et notre invité. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bien, la première question est de savoir qu'est-ce qui est à la base de cette exploitation illicite des minerais dans les aires protégées.
Bien, je pense que c'est une question qui n'est pas toute nouvelle, elle date de très très longtemps. Moi je dirais tout droit en disant que c'est d'abord la faiblesse de l'État. L'État dispose de beaucoup de moyens pour pouvoir effectivement lutter contre ce trafic, mais je pense qu'il y a entre autres le fait que l'État n'a pas pu rendre effective toute la législation qui existe en la matière, mais aussi, je pense que c'est aussi une situation qui est due à la situation sécuritaire, notamment dans les aires protégées de la partie orientale de notre pays. Donc, je dirais même que la guerre participe, ou a entre autres mode opératoire ou objectif, l'exploitation illicite de ces minerais. Il faut créer une zone de non-droit, une zone qui n'est pas contrôlée par l'État, pour pouvoir opérer à ciel ouvert et de manière illicite. Donc il y a la responsabilité de l'État, mais en même temps il y a cette dimension qui nous vient d'une factualité extérieure qui nous est imposée par la guerre et l'insécurité.
Donc on retient qu'il y a deux raisons, la faiblesse de la loi et l'insécurité.
C'est pas la faiblesse de la loi. La loi existe, c'est vrai, on n'a pas toujours de loi parfaite, mais c'est plutôt l'ineffectivité de la loi. L'ineffectivité qui est due au fait que l'État n'arrive pas à pouvoir faire respecter les lois qui sont prises justement pour protéger les aires protégées. Et donc à ce niveau-là, c'est pas l'ineffectivité de la loi, mais c'est plutôt le défaut de l'autorité de l'État qui n'arrive pas à implémenter, à pouvoir faire respecter les lois. Ça c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, évidemment, qui vient peut-être être un justificatif pour le premier, c'est l'insécurité. L'insécurité non seulement par les groupes armés, mais aussi les forces extérieures. Et je voudrais dire qu'on ne doit pas prendre motif de la guerre nous imposée par exemple le Rwanda pour pouvoir justifier cela, parce que les aires protégées sont minées par les groupes armés nationaux depuis plusieurs années. Donc il y a une dimension qui est là de l'insécurité, mais qui revient encore à la responsabilité de l'État qui n'arrive pas à mettre fin justement à ce genre de criminalité armée.
Oui, professeur, pouvez-vous nous rappeler c'est une aire protégée?
Bon, une aire protégée, bon, de manière simple, c'est j'allais dire des espaces qui regorgent une biodiversité avec des caractéristiques exceptionnelles et qui jouissent d'un statut juridique particulier en ce qui concerne leur protection. Alors, il y a une biodiversité qui peut aller dans plusieurs sens au niveau de la faune que de la flore, et qui ont des espèces rares et qui convient de protéger en vue justement de sauvegarder, j'allais dire, la vie de l'écosystème qui est utile pour la vie non seulement des nationaux, mais aussi de beaucoup de peuples qui pourraient en dépendre.
Mmh. Et quels sont les types d'activités qui y sont autorisées?
En principe, les activités, il y en a beaucoup. Hein. Il y a les tourismes, il y a les recherches scientifiques. On peut avoir aussi une exploitation peut-être légale si, par exemple, il y a Il n'y a pas que seulement les minéraux dans les aires protégées. Vous avez la faune, vous avez la flore. Il y a des choses qui doivent être cadrées en fonction des types d'espèces qui se retrouvent dans les aires protégées. Mais cela doit être en fonction des types aussi de statuts qu'on a. Toutes les aires protégées, par exemple, n'ont pas un statut de patrimoine commun ou de patrimoine mondial au niveau de la liste de l'UNESCO. Il y a des aires protégées qui n'ont pas ce statut, mais pour lesquelles, évidemment, la sauvegarde reste évidemment une priorité aussi bien pour l'État, mais aussi un œil qui doit être, souhaité et sollicité de la part des partenaires internationaux.
Oui, mais généralement, ces aires protégées sont, ces aires sont protégées par des éco-gardes. Comment se fait-il que il y a toujours des gens qui arrivent à y pénétrer pour faire des activités illicites?
Justement, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs mises en garde. L'ICCN a beaucoup écrit et mis en garde, mais les éco-gardes dépendent de l'ICCN, l'ICCN qui est une structure étatique. Dès lors que l'État ne lui donne pas les moyens nécessaires, cela pose un problème, ou alors lorsque les criminels qui sont là, ce sont des groupes armés, ou alors des sociétés étrangères qui utilisent les groupes armés, disposent des moyens de nuisance beaucoup plus élevés que les éco-gardes, c'est tout à fait normal, effectivement, que ces aires protégées ne jugent pas de la protection voulue.
Voilà. Et généralement, professeur, comment se passe cette exploitation minière illicite?
Bon, il y a plusieurs voies. Il y a d'abord, on exploite, mais on utilise aussi, j'allais dire, les services administratifs, les services de l'État qui sont commis, entre autres, par exemple, au contrôle. La première des choses, c'est de pénétrer de manière illicite dans ces aires protégées. Parce qu'en principe, on n'y entre pas comme on veut. Mmh. Le fait de créer l'insécurité amène à ce que cet espace ne soit plus contrôlé par le gouvernement ou les forces gouvernementales, la pénétration, et puis il y a un trafic qui est bien suivi, utilisé notamment des forces négatives ou des groupes armés. On exploite, mais en même temps, lorsqu'on exploite, on utilise souvent d'ailleurs des instruments, des machines qui échappent au contrôle ou qui entrent de manière aussi illégale sur les territoires. Et le trafic, le fait de les sortir des aires protégées pour les acheminer vers les lieux où on doit les amener à l'étranger ou même les stocker dans des endroits assez mal connus au niveau de la République, c'est tout. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes, je ne sais pas vous dire que je serai exhaustif, mais c'est d'abord la pénétration dans les aires protégées, une pénétration qui est illégale, et surtout sortir les matières illégalement exploiter, les stocker à des endroits précis et surtout les faire traverser la frontière.
Bien, nous disons merci à tous les internautes qui ont réagi. John Luisa depuis Demba, dans le Kasaï central, nous écrit, il dit que la responsabilité partagée entre le gouvernement et la population, ces aires doivent être sécurisées par le gouvernement lui-même, et malheureusement nous constatons que ce sont nos dirigeants qui s'adonnent à l'exploitation illicite de ces minéraux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à John, professeur?
Je salue John et je dois lui dire que je suis totalement d'accord avec lui. Effectivement, il y a une responsabilité commune et différenciée, évidemment, partagée. La grande responsabilité revient à l'État, mais aussi la population locale, parce que de toute façon, si on devait se mobiliser pour pouvoir protéger ces aires, protéger entre guillemets, la population jouerait un rôle important. La complicité passe aussi par les commis de l'État, les administratifs, mais aussi les riverains de ces aires protégées. John a raison de dire effectivement qu'il nous faudra une grande sensibilisation pour que la population comprenne d'abord l'importance et les enjeux que nous avons autour des aires protégées. Et je crois qu'à ce niveau, il y a peu de sensibilisation, il y a peu de connaissances. Peu de gens savent à quoi nous servent finalement ces aires protégées. Il y a des gens qui s'interrogent, on dit mais pourquoi on garde tous ces parcs ici alors que on ne voit pas des dividendes. Cela est arrivé à plusieurs reprises, surtout en ce qui concerne la partie orientale, où on a vu des populations envahir d'ailleurs les parcs nationaux, parce qu'on s'est dit mais l'UNESCO ne nous accorde rien, on ne voit pas les dividendes de cela. Mais John a exactement raison de dire, nous devons mobiliser et impliquer la population, parce que sans l'implication de la population, l'État ne saurait pas, quels que soient ses moyens, à pouvoir rendre effectives toutes les mesures qui sont prises. Et donc ça c'est un élément, mais je pense aussi que l'État devra pouvoir renforcer les choses qui existent, notamment en ce qui concerne la traçabilité. Il faut absolument renforcer les mesures de traçabilité qui sont là. Au niveau d'abord de l'entrée, on doit contrôler, savoir qui est qui peut entrer dans une aire protégée, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qui sort de ces aires protégées, qui contrôle et qui a la qualité de contrôler. Deuxième élément, c'est, j'allais dire, le caractère spécialisé, parce que on peut bien dire il y a des gens en l'ICCN, les éco-gardes, ça c'est déjà une bonne chose, mais c'est pas tout le monde qui connaît et qui peut pouvoir faire un travail dans le sens de protéger les aires protégées ou les sécuriser. Il faut donc un travail de pouvoir spécialiser une équipe qui pourrait bien travailler dans ce sens-là. Mais comme on le dit toujours chez nous ici, cela ne suffit pas si, du moins de manière globale, la gouvernance ne met pas un accent sur certaines choses, parce que quoi qu'il en soit, on peut avoir un personnel assez outillé, mais tant que ces exploitants, ces trafiquants pourront utiliser cette grande faiblesse qu'est la corruption chez nous pour pouvoir obtenir de manière illégale ce qu'ils obtiennent, ça reste encore un problème. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent dans le contexte, et je pense que nous avons encore un grand chemin à parcourir en ce qui concerne notamment, entre autres, la gouvernance et surtout la confiance que nous devons avoir à l'égard de ceux qui sont chargés de pouvoir faire protéger ces aires protégées.
Bien, on va accueillir Maître Mashaka de Lubumbashi et Jean-Claude qui nous appelle de Kindu. Maître Mashaka, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Maître?
J'avais une observation et puis je vais passer à la question, Monsieur Jody. Vous savez, Monsieur Jody, aujourd'hui, premier responsable de spoliation des aires protégées, moi, je vois, c'est l'État congolais, Monsieur Jody, puisque vous savez, aujourd'hui, l'État congolais, dans quel sens, puisque ce n'est pas pour rien que notre loi interdit aux autorités de faire le commerce. C'est pour éviter certaines influences sur ces domaines-là du commerce. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a les autorités militaires, les autorités politico-administratives qui se lancent dans le commerce. Et si dans les aires protégées-là, il y a certaines matières nécessaires pour le commerce, maintenant, les premières personnes à s'impliquer dans l'exploitation de ces matières-là, ce sont nos autorités. Ça, c'est la première volet. Deuxièmement, mais c'est jeudi. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui sont habilités à la garde de ces zones protégées, ils sont mal entretenus. Ils sont mal entretenus, puisqu'aujourd'hui, c'est à cause de mauvais entretiens de ces personnes-là mis à la garde de ces zones protégées, ils sont obligés à être corrompus et à faire quoi?
Oui, le professeur l'a dit tout à l'heure. Alors, quelle est la question?
Maintenant, ma question, c'est celle de savoir, mais c'est jeudi, nous savons que les lois existent pour la protection de ces aires-là protégées. Qu'est-ce qui fait que ces lois-là ne soient pas mises en application afin de faire quoi? De sauvegarder ces aires protégées. Si aujourd'hui on parle de l'implication de la population locale, qu'est-ce qui pousse aussi la population locale de spolier ces zones-là? C'est lorsqu'ils voient ceux qui sont commis à la garde et ils sont en train de spolier. Et aussi, ils sont obligés de faire quoi? De s'impliquer. Mais s'il y avait une loi, une stricte garde de ces gens-là qui sont commis à la garde, en tout cas même la population, ne pouvait pas avoir ce courage-là de faire quoi ? D'entrer là-bas et faire quoi ? Spolier les zones protégées.
Merci Maître Machaka. Kakule nous a écrit depuis la ville de Butembo. Il dit que ces aires protégées constituent parfois un danger pour la population. Il donne l'exemple du parc des Virunga, qui contient plusieurs groupes armés, y compris le M23, qui déstabilise cette partie du pays. Alors, les ressources naturelles de ces parcs financent même ces groupes armés qui pullulent. C'est comme ça que même l'insécurité persiste dans ces zones. Alors, comme solution, il propose que l'État congolais assure la protection de ces espaces, que l'État congolais fasse participer les populations riveraines dans la gestion de ces ressources, que l'État initie des activités visant à lutter contre le chômage et que nous, Congolais, ensemble, nous puissions travailler pour protéger nos ressources. On va accueillir Jean-Claude Dekindou. Bonjour.
Bonjour, cher ami Jody, et bonjour aussi aux invités.
Quelle est votre question, Jean-Claude?
Bon, en fait, c'est un petit commentaire. En tant que membre de la société civile environnementale, j'ai salué la thématique d'aujourd'hui. Et sinon, moi, je dirais que la loi numéro 14-003 du 11 février 2014 relative à la conservation des racines en dit long. Je vais vous faire un exemple. Au niveau de l'article 40, l'État, la province et l'entité territoriale décentralisée veillent à la sécurité des aires protégées du personnel affecté à leur surveillance. Donc, ceci étant, moi, je veux tout simplement vous dire que tout ça, c'est parce que l'administration de l'État est faible. Si nous sommes en train de remarquer ces genre de situation, c'est partout, sur toute l'étendue de la République. Ça ne se résume pas à l'administration qui est faible au niveau de l'État congolais. Imaginons, nous avons par exemple ici chez nous, à Verpunia, la réserve d'Oku, une réserve de gorilles. Mais malheureusement, c'est peut-être l'État lui-même avec des services qui sont en train de vendre ça aux différents entrepreneurs qui viennent pour exploiter des minerais. Mais à qui la faute? Qu'est-ce que la société? On dit non, la population. Mais qu'est-ce que la population peut faire devant l'État? On dit l'État c'est tout. Hein? L'État est fort par rapport à cette population. Donc, nous sommes en train de constater sans notre vouloir qu'il y a une part de responsabilité. Il y a une grande part de responsabilité de la part de ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui, qui ne tiennent pas compte de toutes ces situations.
D'accord. Merci beaucoup, Jean-Claude Dekindou. Professeur Seguiobé, à vous la parole.
Bon, je crois que je salue toutes les interventions qui vont dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Même si, évidemment, on ne peut pas non plus dire, je prends le cas du dernier intervenant, la population reste un acteur essentiel dans la protection, justement, de ces espaces. Mais je suis avec lui, d'accord avec lui et d'autres qui l'ont dit, que la grande responsabilité revient à l'État. Mais alors, qu'est-ce que l'État? Parce qu'on parle de l'État, mais on a l'impression qu'on parle d'un être désincarné. Je crois que l'État, effectivement, est constitué des institutions, mais lesquelles institutions sont animées par des personnes, des Congolais. Et là, je reviens sur ce qu'un des acteurs politiques a dit, le Congo est malade de ces hommes, de ces acteurs politiques. Effectivement, on a un grand problème. Tant que les acteurs, il n'y aura pas une purge au sens propre du terme, à le sens de dire avoir des acteurs conscients, des acteurs, j'allais dire, peut-être clean, des acteurs qui savent que si jamais, qui ont la notion de la redevabilité, qui pensent qu'on peut les sanctionner quand ils n'ont pas fait correctement leur travail, tant que les choses resteront telles qu'elles sont aujourd'hui, on peut bien crier l'État, mais on n'aura pas les résultats qu'il faut. Bien sûr que l'État doit, au-delà des lois qu'il prend, pouvoir mettre en place, mais nous avons besoin effectivement de pouvoir aussi sanctionner ces acteurs de l'État, ces représentants de l'État qui se livrent au commerce, qui se livrent finalement à l'occupation, qui laissent faire alors que on sait bien que la population ne peut d'abord que compter sur ses propres responsables, les responsables de l'État. Alors évidemment, je crois que il y a beaucoup de choses à dire là-dedans par rapport aux aires protégées, mais la population ne peut pas non plus tout le temps dire l'État. Dès lors que maintenant nous constatons qu'il y a une certaine faiblesse au niveau des acteurs politiques de l'État. Mais la population doit pouvoir aussi se prendre en charge, et c'est le rôle de la société civile. La société civile doit pouvoir effectivement encadrer, mais je dis bien une vraie société civile, pas une société civile à la solde de certains acteurs politiques. Parce que c'est souvent le cas aujourd'hui, C'est vrai, vous avez des gens qui se disent société civile, il est de tels mouvements citoyens, mais en réalité, il est plutôt inféodé à telle tendance politique. Alors, on est en train de tourner en rond, on rond-pointe, on n'arrive pas à trouver une solution. Il nous faut, je plaide, pour une véritable société civile qui comprend les enjeux. Et quand on dit qu'on ne fait pas peut-être assez de formation, je salue la mission qui est la vôtre. Des gens qui suivent ce que vous dites, les débats, les échanges avec les auditeurs, vont comprendre effectivement qu'il y a un problème, vont essayer de comprendre l'importance et les enjeux que représentent les aires protégées, et vont peut-être avoir alors cette idée de pouvoir s'engager véritablement pour la promotion des intérêts nationaux, des intérêts collectifs. Je crois que c'est un commentaire d'ordre général que je puis faire, tout en insistant sur le fait qu'il faut renforcer la traçabilité. Cette traçabilité doit être le fait des services de l'État. Ces services de l'État doivent être à l'abri de la corruption, à l'abri de toute faute. Et s'il y a une faute, il faut appliquer la sanction, parce que l'impunité a élu domicile. Ça fait que quand un responsable sait qu'on ne lui fera rien, il continue à la bêtise. Donc il faudra revoir cet aspect-là. Deuxième chose aussi, l'équipe qui doit surveiller, chargée, commise à la surveillance des aires protégées, il y a, comme vous l'avez dit, les éco-gardes, l'ICSN, c'est vrai, mais il faut renforcer et lui doter des moyens nécessaires pour pouvoir travailler là-dessus. Et le grand élément que je voudrais souligner enfin, c'est l'implication de la population riveraine, même les autres, et le travail doit être fait par la société civile et tous les autres acteurs, et dans un sens d'un engagement citoyen.
Bien, mais professeur, le grand défi reste l'insécurité. Tous ces groupes armés qui pullulent au niveau des parcs, l'objectif c'est l'exploitation des minerais. C'est beaucoup plus cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela? Il faut rétablir l'autorité de l'État.
Et Kakule, je crois qu'il a parlé de Boutembo, a eu raison. Parce qu'en fait, les groupes armés se nourrissent ou se renforcent, où j'allais dire, se rendent encore beaucoup plus forts avec l'exploitation illicite, les produits de l'exploitation illicite de minerais. Et justement, l'État doit pouvoir mettre fin à cette insécurité. Mais pour mettre fin à l'insécurité, l'État doit pouvoir avoir des services organisés. Hein? Quand tous les services ou une grande partie des services c'est gangréné par la corruption, de sorte que même quand vous commettez quelqu'un pour défendre une frontière, pour défendre un service de l'État, il tombe tout de suite sur les coups de charme de corrupteurs. C'est le grand problème. Donc l'insécurité ici doit être vaincue par l'État. C'est vrai, la population doit pouvoir encadrer ou encourager et accompagner nos services de défense et de sécurité. C'est la grande responsabilité, c'est de l'État. Mais l'État ne peut vaincre, ne peut amener la sécurité que lorsqu'effectivement il est suffisamment organisé. Et l'organisation passe par la lutte contre certains maux, et parmi lesquels vous avez la corruption, peut-être la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion. On peut affecter des fonds à telle structure qui doit pouvoir gérer une aire protégée, mais dès lors que ces fonds n'arrivent pas ou n'atteignent pas les personnes chargées à pouvoir faire ces services, cela est un problème. Et l'État le sait. Et chaque fois que la population le dit, il faut que l'État comprenne le cri de la population. Donc en fait, la grande responsabilité, c'est vrai, on a dit que c'est une responsabilité commune, partagée, graduée, mais la grande responsabilité revient à l'État. Et l'État, pour moi ici, je vois un être organisé. Dès lors qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans l'organisation, il ne faut pas qu'on se leurre en pensant qu'il y aura des miracles. Il n'y a pas de miracle en ce qui concerne la gestion de l'État ou les résultats qu'on doit attendre quand un État n'est pas suffisamment organisé.
Bien, professeur Seguio B, expert en droit de l'environnement, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. On va accueillir tout à l'heure le professeur Amunda Ladrazo. Excellente journée et à la prochaine.
Merci, je vous remercie.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais,
c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Comment stopper l'exploitation illicite des minerais dans les aires protégées? Malonga nous appelle de Bandundouville. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à nos invités et bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment.
Quelle est votre question?
Ma question est quasi répondue par l'invité qui vient de nous quitter là-bas. J'allais demander ceci. Les aires protégées, toutes les aires qui sont enviées par nos agresseurs, c'est par là où il y a vraiment Kaudi Biega, Virunga et tout ça. Bon, il vient d'insurger la charge à la population. Et la population doit se prendre en charge pour protéger ses terres. En tout cas, je dis, on dit ceci. J'irai à nous et l'État ici sur la terre. Bon, c'est l'État qui vient encore de me satisfaire en disant que c'est l'État qui a une grande responsabilité pour ça. C'est par là où je vais l'accomplir, puisqu'il il avait répondu.
Il y a des soucis avec votre ligne, Monsieur Malonga. Il y a beaucoup de bruit, on ne peut pas continuer dans ces conditions. Désolé, on va accueillir Albert de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Bonjour à...
Albert, nous parlons de comment stopper l'exploitation illicite des minerais. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Merci. À ce qui concerne la finalisation des exploitations au niveau des aires protégées, moi j'espère, je suis du domaine de l'environnement. Nous avons plusieurs manières et stratégies pour lutter ou pour stopper l'exploitation illicite au niveau des aires protégées.
Quelles sont ces stratégies?
Nous, en environnement, nous sommes régis par les droits de l'environnement. Dans les droits de l'environnement, là, vous trouverez les codes verts. Nous avons des lois qui nous garantissent pour la protection et la protection de ces aires protégées-là. Mais le problème que nous trouvions des difficultés au Congo est que on ne met pas la personne à la place qu'il faut. Dans le sens qu'avant de gérer une chose, il faut avoir certaines connaissances approfondies à la matière. Et si à partir de cela, vous aurez toutes les possibilités de gérer. À ce qui concerne l'insécurité, parce que les aires protégées sont souvent menacées par l'insécurité grandissante qui règne par exemple à l'est du pays-là. Prenons le cas du parc national de Virunga qui fut créé en 1925. Derrière le début de la création de ce parc, il n'y avait pas vraiment de menace. Mais au fur et à mesure, la démographie qui augmente à tout. Comme on a protégé, maintenant le rôle de la protection, les gens doivent savoir qu'on protège pour l'intérêt de toute la population ou l'intérêt de l'État. C'est-à-dire, chez nous, en environnement, nous avons besoin de protéger les choses que nous avions trouvées présentes et pour permettre aussi aux générations futures de se trouver cela. C'est-à-dire, nous protégeons pour aujourd'hui et pour prévoir aussi aux générations futures. Maintenant, je peux vous donner un exemple typique. Par exemple, si on est au village, par exemple, chez moi, à Makanda, vous trouvez des papas là, les vieux papas là, parfois à la maison, il a les mangiers, il a les safoutiers, il a les palmiers et tout comme ça. Dès que les palmiers, nous avons la période par exemple de fruaison. Les papas ont souvent, ou les cocobas là, ont souvent l'habitude de laisser les fruits là devenir mis. Et lorsque les fruits sont devenus mis, tout le monde, tous les passagers, les passagers là, ont l'habitude seulement de jeter leurs dieux dans des parcelles là pour regarder les fruits là sont mis. Ah, comment il a protégé ça? Il y a toujours des petits enfants, il y a même des gens qui viennent pour menacer les déchets là pour, parce qu'il a protégé ces fruits là d'une bonne manière. C'est ça aussi la même façon que comme nous sommes en environnement, nous protégeons pour la population, mais la population comme elle a toujours besoin de satisfaire ses besoins, la population là elle viendra encore pour s'attaquer encore à ce que nous devons protéger ça. C'est pour prenons par exemple, j'ai essayé de faire mon mémoire.
D'accord, donc on comprend que pour réduire la pression de la population sur les aires protégées, il faut peut-être développer des activités alternatives tout autour de ces aires. Merci d'avoir appelé. On va donner la parole au professeur Amundala Drazo. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes expert en faune sauvage, vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets? Quelle réponse vous pouvez leur donner?
Oui, moi je voudrais d'abord, pour commencer, essayer d'identifier les acteurs qui sont impliqués dans l'exploitation minière dans les aires protégées. Mmh. Vous voyez? Généralement, ce sont des hommes armés, étatiques, et parfois non étatiques qui interviennent, parce que vous savez, dans nos milieux, on sait bien qu'aujourd'hui le problème des limites des aires protégées se pose, mais au moins les communautés et tout le monde est informé de la limite, n'est-ce pas, des limites des aires protégées. Mmh. Mais il y a des gens qui entrent dans les aires protégées pour exploiter les minerais, et c'est dans la plupart des cas des hommes armés. Voyez, et pour la plupart des cas, ce sont des militaires et bien évidemment d'autres civils qui sont armés, et c'est eux qui favorisent justement l'exploitation des minerais dans les aires protégées. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que ils sont parfois soutenus aussi par certaines autorités qui tirent des dividendes derrière, n'est-ce pas? Ils se présentent, ils s'affichent pas, mais ce sont ces gens-là qui exploitent ces minerais, et c'est justement au bénéfice de ces autorités qui tirent les ficelles derrière et qui ne s'affichent pas du tout. Mais aussi, il y a autre chose qu'on doit dire très rapidement, c'est que le minerai, n'est-ce pas, l'or, l'or, etc., procure des bénéfices immédiats. Et comme aujourd'hui, on sait que les salaires des agents de l'État, etc., ne sont pas assez substantiels, et donc les gens sont généralement tentés à pouvoir aller et exploiter les minerais, même dans les aires protégées. On oublie ailleurs que les aires protégées constituent véritablement des sources de revenus si elles sont très bien gérées. Voyez comme chez nous, l'écotourisme ne marche pas, mais aussi aujourd'hui, de moins en moins, les gens tirent des dividendes sur les crédits carbone, etc. On a l'impression qu'on perd le temps à conserver la biodiversité. Voyez-vous?
Oui.
Et donc, si on arrivait à expliquer à tout le monde et que tout le monde arrivait à comprendre le rôle des aires protégées et les dividendes qu'on peut tirer dans les jours à venir de manière en tout cas durable, je crois qu'à un certain moment, les gens pourraient être à mesure de respecter les limites des aires protégées et d'éviter d'aller dans les aires protégées pour exploiter les minerais, parce que les conséquences sont vraiment néfastes lorsqu'on fait l'exploitation minière dans les aires protégées.
Bien, Laurent nous a appelé de Kananga pour dire que cette situation préoccupante laisse croire que le cadre juridique n'est pas efficace et ne réprime pas les fauteurs. Il les appelle les fauteurs ou ceux-là qui ne le respectent pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, professeur?
Oui, je me dis toujours, les cadres juridiques, il y en a, les lois, s'il faut vraiment regarder les pays à travers le monde, je crois que la RDC est l'un des pays qui détient vraiment de très bonnes lois, très bien écrites, etc. Mais l'applicabilité, c'est ça le problème. Les gens savent que c'est pas bon d'aller dans les aires protégées et on sait quelles sont les conséquences. Mais aussi, on sait, si quelqu'un fait ça, quelles sont les punitions, etc., qui peuvent en découler. Mais on ne les applique pas. Je connais par exemple, je ne vais pas citer son nom ici, les conservateurs d'une aire protégée quelque part à l'est de notre pays. Il s'est vu jeter en prison tout simplement parce qu'il a interdit que certains militaires rentrent dans l'aire protégée pour exploiter de l'or. Voyez-vous? Et donc c'est des situations qui existent dans notre pays. Les lois existent, les textes existent, mais on ne les applique pas. Vous voyez, les gens qui essaient de les appliquer, ils sont tout de suite présentés comme, je sais pas moi, des démons, etc., ou des extraterrestres qui connaissent pas la réalité du pays. Oui. Il y a ces problèmes-là. Donc, pour moi, c'est l'application de ces lois-là qui pose problème.
Bien, Gilson nous a écrit, il dit, pour mettre fin à cette exploitation illicite des minerais dans les aires protégées, il faut renforcer le système de sécurité, utiliser les drones, etc., pour surveiller tout ce qui se passe là-bas.
En effet, il a raison. Il a raison. Il faut aujourd'hui, par exemple, le nombre de cogardes dans la plupart de nos aires protégées, ce nombre est vraiment vraiment faible. Si bien qu'il n'est pas possible que l'on arrive à sécuriser vraiment l'ensemble de étendues. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le parc de la Maïko. Vous savez aujourd'hui que le rebelle Simba qui sont dans les airs, dans cette aire protégée, protège le parc de la Maïko. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les rebelles qui, eux, protègent? Parce qu'ils disent que c'est leur étendue et ils empêchent que les autres personnes viennent. Alors qu'ailleurs, ça devait être des éco-gardes ou des militaires qui devaient protéger. Donc c'est vraiment des situations difficiles à comprendre dans notre pays, tout simplement parce qu'il faut reconnaître que l'État ne joue pas correctement son rôle.
Bien, on va accueillir Charles qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour. Charles, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi aux invités.
On vous écoute.
Pas seulement l'inefficacité de l'État, moi je vois aussi la complicité de l'État. L'État est complice, monsieur le journaliste. Avec quelle force, quel étranger peut s'autoriser de quitter chez lui et venir exploiter illicitement les richesses dans un pays d'autrui tant que les dirigeants ne soient pas informés au préalable, monsieur le journaliste? Moi, je vois que c'est faux et archi-faux. Nous avons l'État qui joue le rôle de sapeur-pompier. Il joue en même temps et à la musique et au tam-tam. La pauvre population que l'on cite est souvent intimidée par les armes. Et quiconque ouvre sa bouche s'expose aux dangers multiples. Ici au Katanga, messieurs les journalistes, il suffit d'être nommé ministre ou député. Le lendemain, on se dote déjà de son propre carré minier. Et tout ça, nous allons dire que c'est la population. Moi, je ne vois pas la faute de la population. Tant que l'État ne cessera pas à s'enrichir ou à trouver ses dividendes, cette situation va continuer son bon nombre de chemins. Moi, je vois que c'est l'État, d'abord, qui a trouvé un bon moyen de s'enrichir, et voilà pourquoi il y a de laisser aller. Parce qu'un étranger ne peut pas se donner ce poids-là. C'est faux et archi-faux. Ils sont en train de coopérer bel et bien avec l'État congolais. Ils sont en train
Charles, vous voulez dire que ces groupes armés, ces bandes armées qui pullulent par exemple à l'Est et qui exploitent les minerais sont en mèche, travaillent en mèche avec le gouvernement? Travaillent de mèche?
Ce n'est pas un secret, messieurs les journalistes. C'est connu par tout le monde. C'est connu par tout le monde, messieurs les journalistes. S'il n'y a pas un intérêt, vous verrez que ces forces-là, c'est vite, ils sont expulsés du territoire. Mais si ça persiste, on va ouvrir grandement l'œil de l'État à son intérêt là-dedans. Et c'est pourquoi on est en train de laisser quoi ça, des choses comme ça. L'État est au courant. L'État est au courant, monsieur le journaliste. En tout cas, c'est parce que, comme je le disais, ils jouent et à la musique et au tam-tam au même moment. Ils sont en train de s'enrichir comme ça. Mais malheureusement, on commence à citer innocemment la pauvre population. Nous sommes intimidés ici à Lubumbashi.
D'accord,
nous
merci.
Nous sommes intimidés dans le Haut-Katanga.
Voilà, merci. D'accord.
On sait seulement d'ouvrir ta bouche. Oui. Mais tu n'as pas besoin de vivre.
D'accord, merci. Professeur Amundala, à vous la parole.
Oui, merci. Je comprends vraiment notre collègue qui vient d'intervenir. Il faut dire effectivement que l'État a une très grande part des responsabilités là-dedans, mais il y a des endroits où aussi des groupes de communautés hein, qui essaient de s'armer, et en fait des groupes rebelles, si vous voulez, hein, qui font aussi des l'exploitation minière comme ça dans les aires protégées. Il faut reconnaître vraiment le rôle que l'État ne joue pas son rôle dans la sécurisation des aires protégées. Et moi, je me dis, l'État, si vous voyez bien, dans notre pays, lorsqu'on parle des budgets, on ne regarde que le minerai. Ça signifie que pour nous, il n'y a que le minerai hein, qui peuvent donner de l'argent. Or, ailleurs, si on arrive à bien gérer les choses, l'écotourisme, aujourd'hui il y a les crédits carbone, etc. Et si on voit plus loin la solution au problème des changements climatiques, etc. Ça c'est la biodiversité. Et la grande biodiversité, on la trouve justement dans les aires protégées. Voyez. Et donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on doit pouvoir dire, mais en somme faite, l'État a une très très grande responsabilité là-dedans. Moi, je connais des carrés miniers dans certaines aires protégées dans la région de l'Est ici, où c'est les communautés locales qui, bien évidemment, il y a des agents de l'État, etc., qui voient que leur salaire est vraiment minime. Ils se disent, mais bon, qu'est-ce que je dois faire? Alors, ils entrent dans l'air protégé pour commencer à exploiter. Mais bien évidemment, des groupes comme ça, ils ne font pas de très grandes exploitations. Vous voyez, aujourd'hui, à l'époque, l'exploitation minière dans les aires protégées était limitée dans l'exploitation, à l'exploitation artisanale. Mais aujourd'hui, c'est semi-industriel, voyez-vous. Il y a des gens qui viennent avec des dragues. Or, pour faire des dragues, il faut avoir suffisamment d'argent. Et généralement, ce sont les autorités civiles, militaires, etc. du pays qui sont derrière ces genres de choses. Et donc, je comprends bien vraiment à mon ami de Lubumbashi, parce que derrière ça, c'est le gouvernement, c'est l'État, n'est-ce pas, qui devait jouer son rôle. Mais il semble démissionnaire et il semble ne pas vraiment suivre ça. Et comme il dit, il joue lui-même là-dedans. Il y a donc certaines personnalités, etc., qui sont impliquées dans ce genre de choses, voyez-vous. Et donc, c'est véritablement un problème si l'État ne prend pas de très bonnes décisions. Au bout d'un certain temps, on va continuer à dire que nous avons des aires protégées d'autant de kilomètres, d'autant de kilomètres carrés de superficie, etc. Alors qu'en réalité, dans ces aires protégées, il n'y a plus rien parce que les gens y vont, ils exploitent les minerais et les conséquences sur la biodiversité sont énormes. Vraiment énormes. Si on laisse passer ce genre de choses, donc demain, ça, on sera en train tout simplement de dire que nous avons 50 aires protégées, je sais pas moi, autant de kilomètres carrés de superficie, mais en réalité, il n'y a plus rien là-dedans, tout simplement parce que on a fait l'exploitation des minerais dans ces aires protégées. Et donc, pour moi, l'État a une très grande responsabilité là-dedans. Et même si les petites communautés essaient de faire quelque chose, le plus souvent, les actions ne sont pas si importantes. Voilà.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'exploitation illicite des minerais dans les aires protégées?
Ouais, monsieur Jody, vous savez que c'est presque tout le monde qui dit toujours qu'une grande responsabilité vient toujours de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on dit que la RDC est un pays solution. Mais si on dit que la RDC est un pays solution, mais si on ne protège pas les aires protégées, je ne sais pas, on serait un pays solution comment. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, dernièrement, j'avais suivi Rwanda, qui a inventé vraiment ce tourisme. Mais Rwanda, qui est vraiment un petit pays, qui invite même, j'ai vu même l'équipe de Paris Saint-Germain et d'autres joueurs qui étaient venus au Rwanda pour faire un peu de publicité par rapport au tourisme du Rwanda. Mais je me demande, nous, en tant qu'un grand pays, on ne se retrouve pas vraiment. Moi, je trouve que la grande responsabilité tombe toujours à l'égard. Si vous regardez un peu ces zones-là, vous allez voir, on pouvait avoir un peu de militaires qui pouvaient être un peu nombreux sur le terrain, mais vous allez voir même dans un parc des militaires là qui ne sont pas nombreux et puis qui manquent un peu des armes vraiment, que lorsqu'ils sont attaqués, ils peuvent aussi se protéger ou bien protéger nos airs. Je trouve vraiment, moi je pouvais un peu proposer ce genre des émissions, il faut vraiment inviter un peu de ministres qui sont vraiment chargés. Maintenant, quand on pose des questions là, et aussi écoutent ça, qu'ils nous donnent un peu des réponses, qu'on évite un peu des experts, parce qu'on ne peut pas toujours être à chaque moment, on se plaint toujours l'État. Parce que si vous regardez presque dans tous les domaines, et chez chaque jour, les gens se plaignent toujours. Il y a
c'est toujours l'État qu'on incrimine, etc. C'est l'État d'accord. Si on, merci beaucoup Roger Marcel. Professeur Amundala, il y a un auditeur qui a proposé, un internaute qui nous a écrit, Kakule, il a Il a proposé quelques solutions, par exemple, pour lutter contre l'exploitation illicite des minéraux. Il a donné l'exemple du parc des Virunga où il y a beaucoup de groupes armés qui pullulent, même les M23, et là pour exploiter les minéraux. Pour lui, l'État congolais doit assurer d'abord la protection de ces espaces, faire participer les populations environnantes à la gestion des ressources qui sont dans ces aires, et puis l'État doit initier des activités génératrices de revenus pour lutter contre le chômage, etc. Et puis, bon, voilà, assurer la sécurité de ces zones. Professeur Amundala.
Oui, effectivement, il a raison, messieurs les journalistes. Vous savez, c'est comme nous avons dit, la pauvreté est un des problèmes importants, n'est-ce pas, contre la conservation de la biodiversité. Lorsque les communautés sont pauvres, ils vont pas accepter de mourir. Alors, à côté d'eux, il y a des ressources qui peuvent leur permettre de vivre un peu mieux. Et donc, ils seront obligés de rentrer dans ces aires protégées et d'exploiter. Et c'est comme nous avons dit, les minéraux occupent beaucoup d'argent et un peu de temps. Malheureusement, l'exploitation des minéraux a des conséquences néfastes sur la biodiversité. Mais donc, créer des activités alternatives, c'est vraiment une très bonne chose. C'est d'ailleurs ce qu'on a toujours proposé dans des ateliers. Mais il faut véritablement l'accompagnement de l'État. C'est comme nous avons dit, tout n'est pas dit, toutes les aires protégées du pays, les nombres d'éco-gardes restent très très faibles. Très faible, si bien que ces éco-gardes ne sont pas à mesure de sécuriser toute l'étendue, n'est-ce pas, de ces aires protégées. Donc, il faut que l'État essaye de faire quelque chose. J'ai entendu quelqu'un parler du Rwanda qui a organisé l'écotourisme. Oui, le Rwanda a des infrastructures, n'est-ce pas? Les routes sont praticables, il y a des hôtels, etc. Et la sécurité y est. Mais chez nous, c'est difficile d'organiser l'écotourisme. Et c'est comme ça que les gens, les communautés, etc., tout le monde a tendance de ne pas vraiment trouver l'importance de la biodiversité ou des aires protégées. S'il y avait des infrastructures, s'il y avait la sécurité, etc., donc je pense qu'on pouvait aussi organiser l'écotourisme chez nous et on comprendrait, tout le monde verrait l'importance de l'écotourisme. Et donc ce serait quelque chose plus ou moins évident. J'ai discuté un jour, ça c'est une parenthèse, j'ai discuté un jour avec un agent de l'État. Un agent de service de justice, si vous voulez. Je lui dis, bon, si on t'amène quelqu'un qui a tué un éléphant, et on t'a dit de le mettre à prison pendant 5 ans et tout ça, et l'on sait qu'il a dit, mais écoutez, professeur, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut accepter de mettre quelqu'un en prison qui a tué un éléphant, de le garder à prison pendant 10 ans? Qu'est-ce que ça fait? L'éléphant, c'est quoi pour nous? Pour nous, nous protégeons. Vous voyez un peu, donc, les gens ne voient pas vraiment la valeur de ça. En effet, ils ont parfois raison, parce qu'on ne voit pas c'est que cet éléphant-là, la visite, etc.
Qu'est-ce que cela rapporte, oui?
Voilà. Et donc, vous voyez, moi, je pense qu'il y a vraiment un rôle important de l'État. L'État doit vraiment, véritablement jouer son rôle, plutôt que de rester à raconter des choses. Il y a des choses, des bases. Malheureusement, les provinces sont presque oublié, vous voyez.
Mais professeur, ce qui est primordial, c'est la sécurité, arriver à déloger ces groupes armés.
Voilà.
Qui sont dans les aires protégées.
Voilà. Et vous voyez, aujourd'hui, ces groupes armés profitent justement des groupes armés du Congo. La jeunesse est pauvre, elle n'a rien à faire et tout ça. Donc, pour la jeunesse, on s'est dit, bon, autant aller dans ces genres de choses pour essayer de gagner quelque chose. Mais aussi les groupes armés étrangers qui rentrent chez nous. Ils paient de l'argent. Les jeunes gens n'ont rien. Ils n'ont pas de travail, etc. Pour eux, c'est peut-être une possibilité. Mais si on arrivait à occuper la jeunesse, on engageait les gens, etc., je crois qu'on aurait résolu pas mal de ce genre de questions. Mais parce que le gouvernement, en tout cas, excusez-moi, ne fait rien. Combien d'emplois on a créé pendant 10 ans ou 20 ans, je ne sais pas. Combien d'emplois on a créé? Rien. Pour résorber le jeunes qui sont au chômage. Alors, que voulez-vous que ces jeunes aient la face? C'est ça le vrai problème. Je pense qu'il y a vraiment des choses de fond qu'on doit essayer de voir. Et on a l'impression depuis un certain temps que la République, c'est seulement la ville de Kinshasa. Donc, si on fait des choses à Kinshasa, on pense qu'on a résolu les problèmes et tous les problèmes. C'est complètement faux. Excusez-moi de le dire, mais c'est ça le vrai problème.
Bien. Ouais. Merci, professeur Amundala Drazo, expert en faune sauvage. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler de l'exploitation illicite des minerais dans les aires protégées. Excellente journée et à la prochaine.
Merci à vous, monsieur le journaliste.